décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 49, salut Manu.
Salut Christian.
Salut Nico.
Salut Nolwenn.
Salut Luc.
Alors aujourd'hui est un grand jour puisque Manu, tu viens de comprendre que salut Manu, c'était une sorte de leitmotiv parce que ça rime en fait.
Oui, bah oui, voilà. On fait pas toujours attention.
Ça fait je sais pas combien d'années qu'on fait ça, tu n'avais pas réalisé.
Vieux motard qu'on aimait.
Alors le sommaire, qu'est-ce qu'on a ?
Acteurpublic.com, Bastien Guéry, le logiciel a besoin d'une vraie stratégie de mutualisation au sein de l'État.
Le logiciel libre, et c'est bien, ça veut dire que l'État s'intéresse à utiliser nos technologies favorites pour l'implémenter dans différentes administrations, et c'est Etalab qui le dit par l'intermédiaire de Bastien Guéry, qu'on apprécie beaucoup.
IT for Business, officiel, Microsoft Edge adopte Chromium et l'open source.
Donc Chromium, c'est comme un petit enfant qui va passer sous l'aile du parent Microsoft, on va en parler après.
The Conversation, débat, l'open science, une expression floue et ambiguë. Par Alexandre Hockey.
Donc ça parle de science ouverte, donc c'est un concept qui prend pas mal d'idées du logiciel libre, et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on aime bien en parler. Et donc la science ouverte, c'est quelque chose, bah, pas de si nouveau finalement, mais qui rebondit sur un peu ce qu'on fait.
Écoscience, le Fab Lab, un lieu d'émancipation sociale, discours ou réalité, par Éléonore Pérez.
Donc, allez jeter un œil, ça parle un petit peu de ce qu'on fait dans les Fab Labs de manière réelle et ça compare notamment avec les États-Unis et la France où les accès aux Fab Labs n'ont pas l'air de suivre les mêmes conditions.
Journal du Net, à l'Open CIO Summit, la tentation open source des groupes toujours plus fortes, par Antoine Crochet-Damé.
Donc, c'est ce qui vient de se passer il y a quelques jours, l'Open Source Summit où il y a plein d'entreprises qui se retrouvent et qui se sont congratulées sur le logiciel libre, enfin, l'open source, de leur point de vue. Donc, ça marche bien et bah, ça aussi, c'est pas mal.
ZDNet France, la Commission européenne privilégie le logiciel libre par Thierry Noisette.
Donc là, c'est tout un truc au niveau de l'Europe où il y a des recommandations qui sont en train d'être faites par la Commission, c'est une des entités. Et donc ça peut percoler en théorie jusqu'aux administrations des différents États. C'est quelque chose d'assez fort. Je pense qu'on va en parler dans les semaines qui viennent parce que c'est assez conséquent.
Très bien. Donc le sujet de la semaine, ça va être
un sujet à troll.
Un sujet à troll, oui. Et une question de navigateur Internet, puisqu'on l'a vu dans la revue de presse, Microsoft décide d'utiliser Chromium. On rappelle Microsoft, hein, ils font des navigateurs depuis très longtemps. Il y a fort longtemps, quoi, 20 ans, 15 ans, dans ces eaux-là, ils avaient sorti une série de navigateurs qui s'appelait Internet Explorer, qui a été maudite par tous les développeurs.
Je maudis encore les développeurs qui ont travaillé sur cette bouse.
C'était un véritable cauchemar à l'époque. En fait, le navigateur n'implémentait pas bien les standards et du coup, les développeurs web s'arrachaient la tête à avoir des sites à peu près compatibles. Et malheureusement, il était majoritaire. Hein. Il trustait 80% ou 90% de parts de marché à l'époque. Voilà. On n'avait pas le choix.
Donc Microsoft utilisait sa position dominante avec le système d'exploitation pour forcer l'utilisation de son navigateur et puis voilà, pour tout péter en se disant on va mettre la main sur Internet à une époque où c'était en train de se développer.
Et il prenait les utilisateurs en otage.
Il y a déjà quelques années, Internet Explorer ayant fini par récupérer une réputation absolument désastreuse, ils se sont dit il faut qu'on se refasse une virginité et on va créer un machin qui s'appelle Edge. Alors ils n'ont pas pu se retenir de prendre un logo qui ressemblait vachement à celui d'Internet Explorer et donc du coup de saboter leur propre plan. Et disons on recommence tout depuis zéro. Moi, j'avais lu des trucs plutôt positifs en disant que ça marchait plutôt pas mal.
C'était moins pire.
Voilà, tout aussi proprio que ce soit.
Mais comme c'est pas un logiciel libre, on peut pas savoir s'ils ont pas repris exactement le même qu'avant en changeant juste le logo.
Voilà. En tout cas, aujourd'hui, coup de théâtre qui n'en est pas tout à fait un, parce qu'il y avait comme des signes annonciateurs, ils ont décidé de passer à Chromium. Donc, Chromium, c'est quoi ?
Chromium, c'est un navigateur qui est basé sur du logiciel libre, de base.
C'est du logiciel libre.
Oui, par The Chromium Project, c'est ça ?
Voilà.
Et qui est basé sur WebKit.
Il y a tout un historique dans les moteurs de rendu, Blink, WebKit, HTML, c'est une famille de logiciels.
Qu'on en parle en détail et qu'on explique aussi ce que c'est qu'un moteur de rendu.
Le moteur de rendu, c'est ce qui fait que votre page web, vous allez pouvoir la voir de façon visuelle et pas en mode texte sur un terminal.
D'accord, donc c'est ce qui va interpréter le code pour l'afficher en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Et en quoi c'est important ?
Si on veut avoir le même rendu en fait, d'un navigateur à l'autre, le but c'est d'avoir normalement des normes, des specs qui disent comment ça doit se rendre, comment telle balise va s'afficher dans une page. Et du coup, chacun a plus ou moins ses implémentations et sa propre lecture des specs. Il faut être relativement proche d'un navigateur à l'autre pour pas trop perturber l'utilisateur. Quoi.
Donc le résultat, c'est que Chromium est intégré sous la forme la majoritaire qui s'appelle Chrome. Et ça, c'est un logiciel privateur fait par Google, mais dont le cœur, le moteur, comme dans une voiture, hein, ce qui fait tourner la bête, est libre, ce qui nous plaît, de plein de points de vue. N'est-ce pas, Christian ?
Comme Chrome n'est pas un logiciel libre, nous ne savons pas dans quelle mesure ce moteur libre a été modifié pour ne plus être aussi fonctionnel que le libre. Donc,
Oui, enfin, de ce point de vue-là, ça peut très vite se voir au niveau du développement web, parce que justement, dès qu'on va vouloir faire un peu de CSS ou même du JavaScript,
donc
dès
ça,
qu'il y a
c'est
des...
C'est de l'apparence et c'est des fonctionnements, hein, c'est des technologies qu'on réglemente.
Dès que l'on va vouloir avoir un affichage identique entre Chrome et Firefox, par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a des spécifications définies par le W3C qui ne sont pas respectés et qui font que l'affichage va se casser.
Là, tu as introduit Firefox, c'est un concurrent en logiciel libre, c'est donc un autre navigateur Internet.
Voilà, de la fondation Mozilla, donc qui est l'organisation qui le chapeaute, hein, qui a d'autres projets également, mais c'est le projet phare. Et donc, du coup, avant, il y avait quand même, avec ce moteur de rendu, hein, qui est vraiment la clé de voûte du navigateur, il y a plein de navigateurs, mais ils utilisent un nombre de moteurs assez réduit. Qu'est-ce qu'on a comme moteur disponible ?
Alors, on avait celui qui était plutôt basé sur Mozilla, Firefox, c'était Gecko. On a WebKit, donc du coup, qui était un ancien moteur de rendu qui date des années 90, je crois, quelque chose comme
98.
Ça. 98. Qui a été réutilisé par plein d'autres petits projets.
Dont Google,
mais il y a eu aussi Opera, Midori,
Apple,
Android ou autre. Et on avait donc du coup Internet Explorer. J'ai plus son nom en tête d'ailleurs, le nom du moteur qui était utilisé. Et puis Edge après qui est arrivé derrière.
Mmh. On va l'oublier.
Et l'avantage il y a quelques années, c'est que les moteurs-là avaient globalement la même part de marché. On était aux alentours entre 25 et 30%. Donc c'était relativement équitable.
C'est-à-dire que les utilisateurs qui allaient sur Internet, enfin ils utilisaient tous certains navigateurs, mais à peu près de manière égale.
Voilà, c'est en gros, si on résume à Google, Firefox et Internet Explorer, il y avait 33% chacun, plus les petits à côté. Mais c'était une situation qui était relativement bien homogène. Mmh. Aujourd'hui, la situation n'est plus du tout la même, avec Google qui trust 80%, 70-80%. Le passage de Internet Explorer à WebKit qui va encore plus monter la barre. Donc on se retrouve aujourd'hui avec du 90% pour WebKit et 10% pour Gecko. Quoi.
C'est pas tout à fait WebKit, hein. C'est un fork de WebKit qui a encore un autre nom qui s'appelle Blink.
Alors aujourd'hui, famille, hein. Pour expliquer, WebKit, donc c'est le moteur qui avait été utilisé par Google dans Chrome, qui est utilisé par plein d'autres navigateurs, dont qui s'appelle Safari, le navigateur d'Apple. Google, il y a quelques années, a forqué, c'est-à-dire ils ont fait une nouvelle version qui est la leur, donc qui s'appelle comment ?
Blink.
Donc du coup, il y a encore des gens qui sont sur WebKit, donc notamment le Safari en question, Opera, et il y a Blink qui est utilisé par Chrome et Chromium. Et
par donc, Opera maintenant ?
Et par Edge bientôt.
Et donc par Edge, puisque Microsoft, en gros, balance tout ce qu'ils ont fait et disent bah, « nous aussi, on se range derrière la bannière de Google ». Donc du coup, en termes de moteur, qu'est-ce qui reste ? Qui ne soit pas Google, il nous reste finalement que
Firefox.
Que Firefox.
Ça leur donne une importance phénoménale.
À Firefox ?
Oui, à Mozilla. Ce sont les derniers résistants, les rebelles.
Surtout que du coup, c'est le seul logiciel libre, le seul navigateur complètement en logiciel libre. Chromium alors que les libre. Autres, Chromium.
Sur les grands oui. navigateurs en tout cas, les autres sont un peu plus.
C'est vrai, Chromium est un logiciel libre, mais par contre, les utilisations de Chromium, enfin par Google, par Microsoft et par les autres, ce sont des boîtes noires.
Qui développe Chromium ?
C'est un projet en fait, The Chromium Project, qui regroupe du coup Google en premier contributeur, mais n'importe qui peut aller dessus. Quoi.
Voilà, donc c'est financé quand même par Google. Donc, quel intérêt Google a développé un machin comme Chromium alors qu'ils ont leur propre navigateur fermé Chrome ?
Bien, je suppose comme c'est un projet libre, ça veut dire que n'importe quel développeur peut apporter sa propre contribution et ça peut permettre justement d'apporter une plus-value après à Chrome derrière.
Pour le coup, d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Microsoft. Microsoft va contribuer à ce qui est devenu une infrastructure commune. Le moteur est utilisé par différentes entités qui d'habitude sont en compétition. Et donc là, il y a ce côté vertueux du logiciel libre où même des opposants, peut-être même des ennemis, gens qui ont été en bataille, peuvent contribuer de manière positive. C'est du win-win.
Alors du coup, la Fondation Mozilla, ils sont complètement à la ramasse. Ils sont tout seuls, hein, alors que les autres, ils sont tous sur la même orbite.
C'est un peu compliqué parce que le principal problème de la situation qui va se créer, c'est que Chrome est très majoritaire en utilisation. On est aux alentours de 60%. Donc ça veut dire que Google est en position dominante pour pousser ce qu'ils ont envie sur leur navigateur. Et par ricochet, comme en plus c'est le moteur de rendu le plus utilisé, forcément que les modifications vont être reprises par tous les autres derrière. Et donc on va arriver à 90% des utilisateurs couverts. Et puis Firefox, il va être tout seul au milieu. Et qui va de faire que courir derrière Google, à devoir réimplémenter exactement la même chose, mais du coup sur un moteur différent. Avec moins de moyens, donc avec des bugs en plus, avec de la compatibilité qui ne sera pas forcément assurée ou beaucoup plus difficilement que les autres navigateurs. Et donc Google va être le maître du jeu, à pouvoir mettre ce qu'il a envie dans son navigateur et à recréer l'espèce de monstre d'Internet Explorer 6 qu'on avait connu à l'époque, où on était obligé d'être compatible avec ce navigateur-là, sous peine de perdre tous les utilisateurs.
Petit détail, c'est quoi le financement de Mozilla, rappelez-moi ?
Aujourd'hui, ils sont en train de se diversifier, mais touchent l'essentiel de leur argent par les moteurs de recherche qui sont affichés dans le navigateur et qui est le moteur de recherche par défaut, dont Google notamment. Mais évidemment, plus leur part de marché baisse, moins ils vont toucher d'argent, parce qu'une fois qu'ils vont devenir négligeables, pourquoi on continuerait à leur donner de l'argent ?
Sachant qu'il me semble qu'ils avaient aussi fait des accords avec Microsoft.
Avec Microsoft, avec Yahoo, avec que des gens qui respectent à fond les données des gens.
Et du coup, on s'aperçoit que, encore une fois, ça va être aux utilisateurs de faire la différence, d'essayer d'équilibrer les choses. Et donc, nous invitons tous les utilisateurs à utiliser de vrais logiciels libres et pas des boîtes noires basées sur du logiciel libre.
Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça va se passer ?
J'ai foi en l'être humain.
Oui, mais si des navigateurs comme Firefox peuvent éventuellement avoir des financements externes, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être sûr que c'est effectivement libre et respectueux des données privées ?
Bon, on a accès aux sources et après on peut effectivement s'intéresser à la transparence de la gouvernance de la fondation Mozilla. Et là, effectivement, il y a des choses à dire.
On a accès aux sources, des fois c'est compliqué. Par exemple, Mozilla s'est fait avoir. Le magasin des applications en fait était hébergé sur des serveurs donc distants qui utilisaient du Google Analytics dessus. Et donc quand on allait sur la page pour installer des extensions, on était traqué par Google et compagnie. Et c'est du code qu'on n'y a pas accès. Autant le code du navigateur en lui-même, lui, était libre et on pouvait faire ce qu'on voulait, mais les trackers étaient à distance sur des serveurs.
Alors il y a des choses qui sont contestables pour Firefox. Donc l'ambition de la fondation Mozilla, c'est de jouer dans la cour des grands, d'avoir un truc qui soit adapté au grand public.
Ah, ils jouent dans la cour des grands. Hein.
Oui, oui. Mais du coup, ils font un certain nombre de compromis. Alors des gens avaient râlé quand ils avaient accepté de mettre des DRM, qui sont des systèmes de contrôle, donc qui sont un peu l'antithèse de ce qu'on aime dans le logiciel libre, pour la lecture des vidéos. Mais en même temps, ils avaient dit, si on fait pas ça, on meurt instantanément, ce qu'on peut comprendre.
Pour le côté des DRM, c'était pas un sujet qui avait été soulevé au niveau du W3C.
Oui,
justement.
Le W3C avait accepté, il l'avait implémenté.
C'est un peu tiré sur Firefox, alors que finalement, c'est pas forcément Firefox tout seul qui...
Enfin, tout à fait, oui.
Firefox ou la fondation Mozilla. Mais...
Voilà. Alors moi, il y a un truc sur lequel je suis tombé récemment, c'est que la fondation Mozilla a sorti une page où ils font une classification des gadgets high-tech qui respectent la vie privée, et ils ont un texte qui encense le Kindle d'Amazon, alors qui certes n'a pas de caméra ou de choses comme ça, donc pour eux, c'est vraiment super, mais qui est quand même un système à base de DRM de la pire espèce, qui peuvent effacer les bouquins à distance, qui est proposé par un des GAFAM et non des moindres.
Donc Amazon.
Amazon, qui est en plus ça en situation de quasi-monopole sur la vente des bouquins. Enfin, je veux dire, c'est juste une horreur absolue. Et on a une fondation Mozilla qui dit « Wouhou, c'est super !» Alors qu'il y a plein d'autres liseuses qui existent sur le marché. Et pourquoi proposer celle du gros GAFAM qui pue ? Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont été payés pour faire ce truc-là ? Enfin, je me pose des questions et je me dis « Qu'est-ce que vaut leur engagement ?»
Il y a eu aussi Pocket, la fameuse affaire Pocket, où il y avait déjà un logiciel libre qui existait, qui s'appelle Wallabag, qui était maintenu et plutôt maintenu et bien utilisé. Qui permet en fait de marquer ses sites internet pour lire plus tard, et du coup on récupère le texte
et les
enregistrer, etc. On a Wallabag qui est un logiciel libre, on a Pocket qui était un logiciel propriétaire, et Mozilla a racheté Pocket et a dit on l'intègre dans le navigateur, donc c'était arrivé par défaut dedans, et Wallabag du coup s'est retrouvé, mais pourquoi nous on existe, intégrez-nous quoi. Voilà.
Et on peut pas paramétrer son navigateur pour dire je mets le service de mon choix qui me permet service équivalent de mon choix.
On peut bien sûr installer Wallabag, mais c'est pas exactement la même intégration, on est obligé de désactiver complètement Pocket pour intégrer Wallabag en extension. Quoi.
Oui, alors du coup, moi, ma question, c'est est-ce que c'est si grave que ça si Firefox se retrouvait dans l'orbite de Google ? Parce qu'il pourrait très bien faire une version de Chromium qui reste libre, qui fasse vraiment le ménage pour pas qu'il y ait de système de surveillance comme ils le font aujourd'hui avec Firefox. Et au final, leur démarche, elle est quand même vachement commerciale. Est-ce que c'est vraiment la fin du monde ?
Alors, c'est du logiciel libre. Donc, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose, même pour garder des parts de marché, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à chercher à exister, à être utilisés, mais ce n'est pas une nécessité. Ils peuvent continuer à fonctionner, même avec 2% de parts de marché sur Internet.
Aujourd'hui, il faut des millions. La patronne de Firefox a fait augmenter de 117% l'année dernière, ou 115%, elle touche 2 millions et quelques par an. Derrière, bon, je troll, mais il y a également plein de développeurs, et c'est quand même du haut niveau. Il faut beaucoup de monde, donc il faut beaucoup de sous.
Bah, c'est sûr que s'ils arrivent à 2%, ça va être compliqué pour eux de maintenir la même fondation à flot, et etc. Ils pourront continuer de toute façon à vivre avec le logiciel libre, mais l'argent est malheureusement le nerf de la guerre, et les parts de marché aussi. Et c'est vrai que s'ils n'avaient pas réagi comme ils ont fait pour plein d'autres raisons, et peut-être des besoins de marketing ou autre, ils auraient juste disparu de la surface de la planète assez rapidement.
Alors on critique beaucoup la fondation Mozilla, mais c'est quelque part parce qu'on en attend beaucoup aussi. Et pourquoi on en attend autant ? C'est parce que des acteurs de cette dimension-là, dans le logiciel libre, il n'y en a pas tant que ça. Récemment d'ailleurs, on en a perdu un. On a perdu Red Hat, qui a été racheté donc par IBM. Du coup, on se pose la question d'avoir des acteurs importants. Mozilla Foundation, c'est un budget en millions de dollars. Les GAFAM, c'est en milliards, en dizaines de milliards de dollars. C'est déséquilibré et se pose la question du financement. Donc, aux utilisateurs, de se poser la question de savoir s'il faut qu'ils donnent leur argent aux GAFAM ou à des entités de développement de logiciels libres. Voilà.
Cette question de la migration de Microsoft vers le monde Google est aussi catastrophique qu'on pense, ou est-ce qu'au final, s'ils sont suffisamment nombreux à être derrière Google, ils pourront faire pression dessus?
Bah, on espère juste de ne pas revivre un Internet Explorer 6, quoi, et de ne pas se traîner un boulet et subir les normes et les specs de Google. C'est un peu le seul véritable problème au final dans cette affaire.
Voilà, l'avenir nous le dira. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Salut. Salut.